Vous écoutez Grandes Histoires, le podcast
Nature sur 104 FM.
Bonjour à tous et bienvenue sur Transistor sur le 100.4 FM.
Vous êtes dans le podcast Nature. Nous vous faisons découvrir la nature de cette nouvelle émission.
Aujourd'hui, on va interviewer Eric Rotenec. Il a travaillé la région Bretagne.
Il va nous présenter l'observatoire aquatique à Châtelain. On va parler du saumon qui a été interdit de pêcher dans l'Aune et des causes de cette disparition.
Nous sommes à Châtelain, à côté de l'école Marie Curie, dans le jardin de la maison éclusière. Let's go.
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et depuis combien de temps travaillez-vous ?
Alors bonjour, donc moi c'est Eric Krogenec. Je travaille à la région Bretagne sur l'observatoire aquatique depuis maintenant 20 ans que je suis là. Et donc au service de la biodiversité des canaux, en particulier des poissons migrateurs que vous allez découvrir tout à l'heure quand on fera la visite de l'observatoire ensemble.
Comment avez-vous fait pour construire l'observatoire de poissons, des poissons ?
Alors, j'étais pas là, moi, quand l'observatoire a été construit. Il a été construit en 1995 et 1996, donc vous n'étiez pas né. Et en fait, il a fallu 2 ans pour construire l'observatoire. On a d'abord vidangé le canal. On a ouvert ce qu'on appelle la grande vanne qui est de l'autre côté du canal, du côté de la bibliothèque. Si vous allez à la bibliothèque de Châtelain, vous avez une grande vanne là, avec une passerelle verte. Et bien, quand on ouvre cette vanne là, tout le courant de l'Aulne va passer par là et on va abaisser le niveau. On va baisser le canal et après on va construire, vous verrez une photo dans l'observatoire, on va construire une digue tout autour de l'endroit où on va construire l'observatoire et on va assécher avec des pompes. Donc on a construit un barrage et on a vidangé le canal pour construire l'observatoire pendant 2 ans.
Est-ce que l'observatoire aide à remonter les poissons ?
Alors l'observatoire, il a plusieurs vocations. Sa vocation première, son objectif premier, grâce à une passe à poissons, que vous verrez tout à l'heure, c'est effectivement de faire remonter les poissons facilement au niveau du seuil de Châtelain. Donc quand les anciens qui étaient avant nous ont construit le canal, ils ont construit l'écluse. Ils ont construit un déversoir, c'est-à-dire une cascade qui va permettre de garder une hauteur d'eau plane sur le bief de Châtelain. Et ils ont construit une grande vanne. Et ils n'ont pas forcément tout de suite pensé aux poissons. Et très rapidement après, ils se sont rendus compte, ah ben mince, les poissons ont du mal à sauter 2 mètres. Parce que la cascade de Châtelain, elle fait quasiment 2 mètres. Et donc on leur a construit dans un premier temps ce qu'on appelle des échelles à saumon. Donc si vous allez sur le site de Quatigra, pour vous balader un peu, vous verrez encore une échelle à saumon. Vous verrez les bassins et le poisson, comme un escalier, doit sauter de marche en marche. On avait ça à Châtelain, je ne sais pas s'il y a des personnes qui étaient là il y a déjà 30 ans à Châtelain, mais on avait ce dispositif. Et donc il a été détruit pour faire la nouvelle passe à poisson et l'observatoire aquatique.
Combien de personnes visitent l'observatoire dans l'année ?
Alors en fait, l'observatoire, depuis qu'il a été repris par la région Bretagne en 2020, est avant tout une station de contrôle des poissons migrateurs. On a axé en fait mon travail, non plus sur l'accueil des visiteurs, mais vraiment sur le comptage des poissons. Au niveau du dispositif piscicole, donc de la passe à poissons multi-espèces, et aussi des anguilles que vous verrez dans un deuxième temps. Avant que la région ne reprenne, et sans doute demain, puisqu'on est en train de réfléchir à comment réouvrir l'observatoire au public, on accueillait à peu près 10 000 visiteurs tous les ans. Voilà. Des scolaires comme vous, aujourd'hui. À peu près 2 500 scolaires, on avait sur une année classique. Et puis, on va dire 8 000 visiteurs locaux, estivants, des touristes l'été, surtout sur juillet et août. Aujourd'hui, l'observatoire, ben, il faut faire attention. S'il y a la grande flamme région Bretagne, c'est qu'il est ouvert, comme c'est le cas aujourd'hui. Et si la flamme n'est pas là, c'est que je ne suis pas là et il est fermé.
Est-ce qu'on peut observer la pollution avec l'observatoire aquatique ?
Alors effectivement, la première pollution que tu vas voir, c'est par exemple de la pollution qu'on appelle physique, des déchets, des sacs poubelles qui passent, des canettes qui passent, des bouteilles qui passent. Donc ça, c'est le premier type de pollution. Ça existe encore, hein, malheureusement. Un peu moins quand même depuis quelques années. Avant, vous savez que le marché de Châtelain, c'est le jeudi. Et systématiquement, tous les jeudis, vers midi, je voyais passer des cagettes, des papiers. Et là, aujourd'hui, il y a quand même un respect plus important et il y a moins de ces déchets-là. Par contre, le jour où il y a la fête foraine à Châteaulin, là, par contre, c'est vraiment là où je récupère le plus de choses. Ça peut être des ballons, ça peut être des porte-gobelets que j'ai eus et que j'entrepose dans mon bureau. Voilà, j'ai toute une collection de petits gadgets comme ça qu'on a retrouvés dans le canal. Donc ça, c'est la première pollution que l'on peut voir, physique. La pollution après, chimique, vous n'avez sans doute pas connaissance de ça, mais il y a 2 ans, il y a eu une pollution au mâche-fer un peu plus haut, avec un déversement en fait dans le canal, et effectivement j'ai pu l'observer aussi parce que la couleur de l'eau est devenue complètement marron. Donc il n'y a pas de mesures qui sont faites, je ne mesure pas, je ne compte pas le nombre de bouteilles, mais je peux regarder et constater que effectivement les jours de marché ça s'améliore en 2025 par rapport à ce que j'ai pu connaître en 2000. Et par contre, il y a encore le point noir de la fête foraine de Châteaulin le week-end en septembre, où là, malheureusement, les gens jettent des choses dans le canal et je les vois au niveau de l'observatoire.
Quelle est la profondeur du canal ?
Alors, le canal, il a été construit en fait sous Napoléon, il y a 200 ans, avec une profondeur à peu près de 1,60 m. Pour que des bateaux qui ont de type péniche, hein, qui ont un tirant d'eau, on appelle ça, donc une hauteur d'eau sous la coque d'1,60 m, puisse passer. Aujourd'hui, n'y a plus beaucoup de péniches pour faire des traces sur le canal. Donc forcément, il s'est un peu envasé. Et là, on est plutôt entre 1 m et 1,10 m, la profondeur du canal.
Est-ce que l'observatoire est régulièrement inondé ? Est-ce que vous êtes un observatoire des inondations ?
Alors, le premier bâtiment quand l'Aulne déborde, quand le canal déborde, c'est l'observatoire. Tout à l'heure, vous allez descendre dedans, vous verrez qu'il y a un escalier, hein, on descend sous l'eau. Eh bien, ça, c'est le premier bâtiment à Châteaulin. À chaque fois que l'Aulne atteint à peu près 1,05 m, eh bien, je ne peux plus descendre dans l'observatoire. Alors, vous verrez, il y a une porte étanche. Si elle est bien fermée, normalement, l'eau ne rentre pas dans l'observatoire. Donc, on peut laisser les caméras, on peut laisser les ordinateurs en été, il n'y a pas de problème. Par contre, si par malheur, on n'a pas bien fermé la porte, eh bien l'eau peut rentrer dedans et il se peut que la pompe ne fonctionne pas, qui est à l'intérieur, et là, ben, le niveau monte. C'est arrivé une fois. Mais effectivement, tous les ans, alors ça peut aller une fois par an. Donc cette année, je crois que j'ai eu 3 fois la cage d'escalier inondée. 3 fois, l'Aulne a atteint ses 1 mètre. Et donc ben, après, on y va avec une pompe pour vider la cage d'escalier et puis des seaux pour enlever toute la terre qui s'est accumulée, qui vient de la rivière.
Et vous les remettez ça normalement ?
Et après, je remets effectivement le limon dans le canal.
Qu'est-ce qu'on observe comme poisson dans l'Aulne ?
Alors, dans l'Aulne, tu as 3 catégories de poissons. Première catégorie, ce sont des poissons d'eau douce. Hein, la rivière, l'Aulne, c'est un fleuve. À la base, c'est un fleuve d'eau douce. Donc, on va avoir des poissons qui font tout leur cycle en eau douce. Donc, c'est par exemple le brochet, que vous avez vu tout à l'heure dans la salle d'exposition. Celui-là, c'est un poisson naturalisé, mais il y a des brochets, il y a des perches, il y a des brèmes, il y a des gardons, il y a des pêcheurs peut-être. Il y a des enfants qui vont pêcher à la ligne au bord du canal, dans le groupe. Non ? Personne ne pêche ?
Si, moi, je pêche.
D'accord. Eh bien, ces poissons-là, ce sont des poissons d'eau douce. Ils vont naître dans le canal, grandir dans le canal et mourir dans le canal. Deuxième catégorie de poissons, ce sont un peu des super poissons, ce qu'on appelle des poissons amphihalins. Ils sont capables de vivre une partie de leur vie en eau douce, dans le canal, c'est de l'eau douce, mais aussi une partie de leur vie en mer, c'est de l'eau salée. Et un coup, ils vont filtrer de l'eau douce et un coup, ils vont filtrer de l'eau salée. Et donc ça là, ce sont des poissons migrateurs, un peu comme les oiseaux migrateurs que vous connaissez qui changent de continent à la recherche de la chaleur. Eh bien, les poissons migrateurs vont quitter leur milieu eau douce ou eau de mer, soit pour aller se reproduire, soit pour aller grossir. Et parmi ces poissons-là, eh bien, les 5 que l'on a sur Châteaulin, c'est le saumon atlantique, bien sûr, la grande alose, la alose feinte, la lamproie marine et l'anguille européenne. Voilà les 5 poissons. On pourrait rajouter la truite de mer, mais il n'y en a pas beaucoup dans le canal, qui sont des poissons qui vont changer de milieu. Et la troisième catégorie de poissons, eh bien, ce sont les poissons qu'on a pu voir à l'observatoire, par exemple, les jours derniers, quand on est en grande marée. Le week-end dernier, on était en grande marée. Ce matin encore, on avait un coefficient de 107. Eh bien, ce sont des poissons de mer qui n'ont rien à faire en eau douce, mais qui suivent la marée. Et quand on a une grande marée, ben, ces poissons se promènent et viennent jusqu'à Châtelain. C'est le cas des mulets, c'est le cas des bars qui viennent chercher des poissons. Ceux-là, ils n'ont rien à faire en eau douce, ils ne mangent pas en eau douce, mais ils viennent juste chasser. Voilà les trois catégories. Hein. Poissons d'eau douce, poissons capables de vivre en eau douce et en eau de mer, et poissons de mer.
Pourquoi le saumon est-il maintenant interdit de pêcher ?
Alors depuis cette année, effectivement, la réglementation de la pêche de loisirs a évolué sur cette espèce-là. Pourquoi ? Je vous montrerai tout à l'heure dans l'observatoire. Hein, j'ai un graphique qui montre l'évolution de la quantité de saumon que je compte tous les ans ici à Châtelain. Et on est arrivé à des valeurs relativement basses, puisque l'année dernière, c'est 141 saumons qui ont été comptés seulement. Donc c'est plus, il n'y a plus suffisamment de saumon pour garantir une reproduction et un maintien de l'espèce. Si en plus on rajoute une pression de pêche à la ligne, avec des pêcheurs qui sont là, c'est pour ceux qui voient par le passé à l'ouverture, on avait plusieurs pêcheurs sur l'écluse de Châtelain, plusieurs pêcheurs à l'écluse de Quatigra, plusieurs pêcheurs à l'écluse de Toularodo. Ben, si on met tous ces pêcheurs bout à bout et qu'on enlève, je ne sais pas moi, 10, 15, 20 saumons parce qu'ils en auront pêché cette quantité-là, eh bien du coup on va ramener à une centaine d'individus et là on garantit même plus le maintien de la population. Donc c'est pour faire en sorte qu'il y ait encore suffisamment de géniteurs, suffisamment d'adultes pour se reproduire.
Quels sont les pires ennemis du saumon ? Est-ce l'homme ou un autre animal ?
Alors, pas que l'homme. Il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de prédation sur le saumon, en tout cas en eau douce. On va sans doute se rendre compte que la pression de pêche n'était plus ce qu'elle était. Hein, si on regarde, si vous faites un peu de travail de recherche d'archives, vous verrez qu'il y a 30 ans, c'était pas 3 ou 4 pêcheurs qu'il y avait sur le site de Châtelain, mais c'était peut-être une quarantaine de pêcheurs qui étaient les uns contre les autres. Donc là, il y avait effectivement beaucoup de pression. Mais aujourd'hui, il y a tellement peu de poissons qu'il y a très peu de pêcheurs. Là, en l'occurrence, en 2025, il n'y a pas de pêcheurs du tout. Mais du coup, l'homme, il n'a pas tellement d'impact. Ce qu'on mesure aujourd'hui, ce qu'on se pose comme question aujourd'hui, c'est qu'il se passe quelque chose en mer pour le saumon. En rivière, on lui fait des passes à poissons pour qu'il remonte plus facilement. Vous allez en visiter une tout à l'heure. On met en place des programmes d'amélioration de la qualité de l'eau. Autrefois, les stations d'épuration, par exemple, ne traitaient pas le phosphore. Et le phosphore entraînait un développement d'algues microscopiques qui augmentaient la température du canal. Bon, aujourd'hui, on traite le phosphore à la station d'épuration de Châtelain ou Châteauneuf. Donc, on n'a plus ce phénomène-là. Donc, en eau douce, on a quand même une amélioration de la qualité de l'eau. On a une amélioration aussi des conditions de transfert, de nage de ce poisson, parce qu'on fait des passes à poissons. Il faut savoir que, par exemple, à partir de l'année prochaine, on va rénover 6 passes à poissons au niveau de la région, à partir de Quatigra jusqu'au Guillec. Donc on va dans le sens de l'amélioration sur le milieu eau douce. Par contre, en mer, malheureusement, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe en mer. On sait qu'il y a des élevages qui, malheureusement, pour notre consommation, quand vous achetez un saumon aujourd'hui dans le commerce, c'est un saumon qui est produit en élevage. Et malheureusement, il y a des maladies qui se développent. Donc les maladies qui se développent dans les élevages se transmettent au saumon sauvage. Et peut-être qu'effectivement, ces maladies-là tuent les saumons. Après, on sait qu'il y a aussi une modification des courants dans les océans actuellement. Du coup, la nourriture que mange le saumon, elle n'est plus aux endroits où il allait la chercher avant. Et du coup, ben, peut-être que le saumon, au lieu de revenir ici en Bretagne, eh bien, il va aller un peu plus haut, au nord de l'Europe. Alors, il existera toujours, mais on en aura moins chez nous et ils en auront plus parce que le krill se déplace, sa nourriture.
Est-ce que les poissons sont différents d'une saison à une autre ?
Alors, les poissons sont pas tellement différents, figure-toi, d'une saison à une autre. Depuis maintenant 1999, vous allez voir qu'on filme tous les poissons, on les compte, et je sais quasiment précisément à quel moment ils vont arriver. Donc les uns après les autres, ils vont pas tous arriver en même temps. Là, par exemple, en ce moment, on arrive début mai, c'est les aloses et les lamproies qui arrivent. On a quasiment fini les saumons de printemps. Et on va attaquer, à partir de mi-juin, d'autres saumons qui sont un peu plus petits, qui sont les saumons d'été, les castillons. Et on sait aussi, puisque sur la station, on mesure la température, on regarde les débits de l'Olne, on regarde les marées, on sait que ces valeurs-là, sont, ces paramètres-là sont importants pour les migrations. Par exemple, aujourd'hui, il fait très beau. Donc, on est susceptible de voir des aloses. Il y a quelques jours, il pleuvait beaucoup. Là, le week-end dernier, il a plu. Ben là, j'avais plus du tout, la semaine d'avant, même, c'est pas le week-end dernier, c'est la semaine d'avant. Là, j'avais plus du tout d'aloses. Donc aujourd'hui, en comptant, en filmant les poissons, eh bien, on sait que quand on a une diminution de la température, eh bien, il n'y a plus de poissons à arriver. On sait aussi que quand il y a des grandes marées, bing, il y a les poissons qui arrivent. Voilà.
Combien de poissons avez-vous compté sur l'année 2024 et depuis l'ouverture de l'observatoire ?
Alors, j'ai pas fait le calcul global. En moyenne, si on cumule toutes les espèces dont j'ai parlé tout à l'heure, on est à peu près entre 4000 et 6000 poissons à l'année, toutes espèces confondues. Elles vont par contre ne pas fonctionner et ne pas avoir les mêmes incidences tous les ans. Certaines années, je vais avoir beaucoup d'aloses et en même temps, j'aurai très peu de lamproies. Et l'année d'après, j'aurai beaucoup de lamproies et très peu d'aloses. Le saumon, on voit que c'est une diminution, vous verrez sur le graphique tout à l'heure. Bon, vous pourrez prendre des photos d'ailleurs pour illustrer vos propos et, ou mes propos. Et mais c'est dans ces eaux-là, entre, on va dire, 5000 poissons à l'année. Et cette année, je suis arrivé à 1500 à peu près, déjà avec les aloses. On est déjà quasiment arrivé à 1000 aloses, donc c'est plutôt bien cette année, hein, mis à part l'épisode de pluie qu'on a eu il y a 15 jours. Là, il a fait beau, il a fait chaud, donc elles sont toutes arrivées de manière précoce. Elles étaient en avance cette année.
Avez-vous vu une diminution ou une augmentation du nombre de poissons depuis que vous travaillez ici ?
Alors ça répond un peu déjà, c'est un peu ce que j'ai pu dire, c'est que y a des espèces qui diminuent. Le saumon, tu vois, depuis que je suis arrivé, on va dire que je comptais à peu près 1500 saumons les premières années où j'étais là, dans les années 2000, et aujourd'hui j'en compte plus que 150. Donc tu vois, on a vraiment une vraie baisse. Et après, les autres espèces, c'est vraiment dents de scie. Donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et pour l'instant, on ne sait pas trop pourquoi ça monte et ça descend. On sait que certaines années, quand il fait comme aujourd'hui, très chaud, très beau, sur toute la longueur de migration, donc c'est-à-dire de maintenant jusqu'à juin, bah les poissons, ils aiment ça et ils rentrent dans la rivière. Par contre, si demain, on a des gros orages, que la température baisse de 2 degrés et que les débits augmentent, donc la quantité d'eau augmente très rapidement, là, on n'aura plus de poissons à arriver. D'accord ? Et après, sur les autres poissons blancs, c'est à peu près stable. J'ai autant de perches, j'ai autant de brèmes, j'ai autant... tu vois, ça. En fait, ça s'autorégule. Il y a une régulation entre les poissons migrateurs et les poissons blancs.
Qu'est-ce qu'on peut observer comme poisson au niveau du pont de Térénèse ?
Alors, au niveau du pont de Térénèse, eh bien, on va avoir, on n'aura pas de poissons d'eau douce. Donc on n'aura pas de brochets, on n'aura pas, voilà, tous les poissons qui vivent dans ce milieu-là, on ne les aura pas. Par contre, on aura tous les poissons migrateurs. Et puis, de temps en temps, on peut avoir des phoques qui remontent. Alors des dauphins, j'ai rarement entendu parler, mais des phoques, c'est assez... Alors c'est pas des poissons, hein, c'est des mammifères, mais qui remontent aussi dans cette zone-là. C'est plus des poissons de mer, après. Les barres vont remonter jusque-là, les mulets vont remonter jusque-là. On est sur deux milieux différents. Ici, on est à la zone de séparation entre l'eau douce et la mer, puisque quand on a des grandes marées, l'eau, elle est saumâtre, un mélange d'eau douce et d'eau de mer. Et par contre, à Térénèse, dans l'estuaire de l'Olne, on est vraiment en eau salée. Donc,
À quelle profondeur est l'observatoire quand il est inondé ?
Alors, on va dire qu'on a 2 mètres quand on est dedans à peu près, et tu rajoutes 1,60 m puisque dans la maison éclusière que vous avez juste à côté de vous, là, la dernière crue qu'on a eue en 2000, c'est ça, que je ne me trompe pas, on a eu 1,60 m d'eau à l'intérieur de la maison. Donc qui c'est qui mesure 1,60 m ? Ça doit pas être très loin, je pense, de toi.
Mon père.
Ton père ? Bon, ouais. Voilà. Donc 1,60 m, vous imaginez, hein, vous mettez dans le couloir de la maison éclusière et vous avez de l'eau jusqu'à 1,60 m. Donc comme l'observatoire, il fait 2 mètres de profondeur, tu rajoutes 1,60 m, 3,60 m.
Ok. Bon, merci.
Merci à vous.
Et voilà, notre émission est terminée.
Merci à Eric Kronek de l'Observatoire Aquatique.
Nous vous rappelons que toutes nos émissions sont disponibles en podcast. Nous vous souhaitons une agréable journée et à bientôt pour une nouvelle émission.
Au revoir. Vous écoutez Transistor, le podcast
Nature sur 100.4 FM.